Un pas de côté, Jérôme Vuittenet, chapitre 20. Marion se tenait sur le trottoir d'en face, immobile, attendant visiblement qu'Anthony sortît sans oser sonner à la porte d'aussi bonne heure. Il traversa la route pour la rejoindre, un peu contrarié par sa présence. Elle tenait dans ses mains une sorte de vase aplati rempli de terreau. « Tu partais ? » demanda-t-elle contrite. « Oui, je prends le train à Lyon, » répondit-il sans ménagement. « Je peux repasser demain, si tu veux. Demain et les jours suivants, je serai à Paris. J'ai trouvé un job, finalement, » dit-il, non sans une certaine défiance dans la voix. « C'est bien, je suis contente pour toi, » répondit-elle sincèrement. « Qu'est-ce qui t'amène ici ?»« Je voulais juste te dire que je dois partir à nouveau compter mes manchots à l'autre bout du monde et... Si c'est pour aider ton père à nouveau, je suis désolé, mais... Non, ce n'est pas ça. C'est la fin de la saison, mon père va bien se débrouiller tout seul, ne t'inquiète pas pour lui, mais... » Mais, dit Anthony en regardant ostensiblement sa montre comme pour mieux signifier qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Du reste, c'était vrai, car son train ne l'attendrait pas. « J'aimerais que tu t'occupes de cette plante, en mon absence. » Elle lui tendit le pot en grès rempli de terre. Aucun végétal ne semblait y vivre, la surface du terreau était totalement vierge. Anthony prit l'objet dans ses mains, agacé. « Que veux-tu que je fasse de ça? Ton père n'est pas plus doué que moi pour faire ce genre de choses? » « Il avait raison alors, tu es fâché ?»« Qui avait raison? Qui est fâché » répondit-il presque agressivement. L'ambiance qui règne sur une base scientifique est bien différente de celle qu'on peut connaître ici. Quand je rentre, chaque fois j'ai besoin d'une période d'adaptation pendant laquelle je peux paraître odieuse. Tout me semble futile et le contact avec les gens normaux m'est difficile. Je ne m'en suis pas rendu compte, mais apparemment j'ai été blessante quand tu es venue me chercher au bus. Je voulais m'en excuser avant de repartir aux antipodes et te laisser ceci. » Anthony se radoucit un peu, mais son père s'impatientait au volant de la voiture, moteur tournant. « Qu'est-ce que je dois en faire ?»« Pense à l'arroser chaque jour. Un demi-verre d'eau, c'est tout. Et laisse-la à la lumière, surtout. » « C'est tout ? Je passerai la reprendre à mon retour dans un mois, si cela ne te dérange pas. À Paris ? Là où tu seras à ce moment-là, je t'appellerai. » Il remarqua qu'elle avait retrouvé son regard désarmant, mais son état d'esprit du moment l'immunisait totalement contre ce genre de déstabilisation. Il se força à ne pas être trop brusque et désagréable pour lui dire au revoir, puis s'engouffra dans la voiture qui démarra aussitôt. Marion sentit une vague de larmes perler à ses yeux, mais elle vit la mère d'Anthony la regarder par la fenêtre à travers ses rideaux. Elle retint ses sanglots et repartit à pied, comme elle était venue, en shootant dans l'un ou l'autre caillou qui se trouvait sur son passage. Anthony garda le pot sur ses genoux jusqu'à la gare, encombré par cet objet difficile à transporter, surtout dans un train. « Tu veux qu'on le garde à la maison ?» proposa son père. « Je ne vais pas vous embêter avec ça. Tu sais, ta mère a déjà plein de trucs à arroser chaque soir, un de plus ou de moins. » « Je vais m'en occuper, merci, » insista Anthony. Arrivé à sa place dans le TGV pour Paris, il posa le pot sur la tablette, sous le regard mi-amusé, mi-dégoûté des autres passagers, presque tous vêtus de costumes sombres et chemises blanches, l'uniforme standard des participants à la course quotidienne vers la capitale. Son voisin direct passa l'essentiel du voyage en voiture-bar ou sur la plateforme entre les wagons pour téléphoner, évitant ainsi de subir les regards réprobateurs dirigés vers le jeune homme. Anthony ne put pas, comme il l'avait prévu, mettre à profit le temps du trajet pour peaufiner son plan de communication, obnubilé par le contenu mystérieux de ce récipient. « Et si c'était des plants de cannabis » songea-t-il. Il interpréta soudain différemment les regards portés sur lui et se demanda si les policiers qui ne manqueraient pas de faire des rondes à la gare de Lyon auraient la même idée. Finalement, avant de sortir du wagon, il réussit à glisser le pot rempli de terre dans son sac avec le risque qu'il répandît son contenu sur ses vêtements propres. L'air coupable, et avec l'impression que tout le monde le regardait comme un terroriste, il prit le métro en direction des Champs-Élysées. Audrey ne lui avait pas communiqué l'adresse de l'appartement, mais seulement celle de l'agence. Il passa devant celle-ci qui, pour l'instant, était vide et inoccupée. Située entre une boutique de vêtements chics et une agence bancaire, l'endroit était parfait pour attirer une clientèle huppée et branchée. Il avait encore quelques heures devant lui, aussi entra-t-il dans la boutique voisine pour acheter un nouveau costume qu'il enfila aussitôt, tassant ses vieux vêtements dans son unique sac déjà plein à craquer. Il traversa ensuite l'avenue pour manger à la terrasse d'un restaurant de moyenne gamme, en attendant l'heure du rendez-vous. À 13h30, des fourmis dans les jambes, il commença à tourner et retourner autour de l'agence, mais soucieux de son image, en prenant soin de ne pas arriver le premier et attendre bêtement devant la vitrine vide. Un homme costumé arriva et posa sa mallette devant la porte avant de sortir son téléphone portable. Anthony le guetta du coin de l'œil, en faisant semblant d'admirer une montre Rolex dans une vitrine. Il faisait de grands gestes tout en téléphonant, il pouvait presque entendre la conversation d'où il était, tellement l'homme déployait d'énergie à se faire remarquer. Audrey arriva enfin, dans un tailleur sombre et sexy qui dévoilait une grande partie de ses jolies jambes. Après avoir embrassé l'homme qui avait terminé sa conversation téléphonique, elle sortit un trousseau de clés de son sac à main et ouvrit la porte. Anthony prit son sac sur l'épaule et allongea le pas pour les rejoindre. Il vit l'homme au téléphone examiner sans honte les fesses de la jeune femme légèrement penchées sur la serrure et cela l'agaça, bien qu'il eût sans doute fait la même chose à sa place, mais avec plus de discrétion. Avant d'entrer, Audrey tourna la tête et vit Anthony qui arrivait sur eux. « Nous arrivons en même temps » cria-t-il à la cantonade. « Non, j'étais là avant » fit remarquer l'autre avec un léger accent italien. Audrey posa une fraction de seconde les yeux sur le sac de voyage d'Anthony et ce dernier se rendit compte qu'il avait commis une première faute de goût. Mais résolu à ne pas se faire devancer, il prit Audrey par l'épaule pour l'accompagner à l'intérieur, laissant l'autre homme seul sur le trottoir. « Alors qu'est-ce que tu deviens depuis le temps ?» lui dit-il. Puis il jeta son sac par terre en pestant contre les transports en commun, déclarant préférer l'avion. L'Italien entra à son tour, relevant le défi que venait de lui lancer implicitement Anthony. « Si c'est la guerre que tu veux, » pensa-t-il. Il était un peu plus âgé, et sans doute n'était-ce pas sa première expérience professionnelle. Rompu à tous les coups bas, il contre-attaqua en séparant les deux jeunes gens pour se présenter et saluer Anthony. « Moi, c'est Remo. »« Laisse-moi deviner, tu vas t'occuper de Rome, » dit Anthony en se forçant à rire. « Un Français observateur, on aura tout vu, » répondit-il sur le même ton, sans se départir de sa bonne humeur affichée. Anthony, ancien camarade de classe d'Audrey. « Au fait, tu fais toujours de la danse ?» reprit-il en se tournant vers elle. Elle répondit évasivement, en souriant, elle aussi habituée aux faux ronds de jambes et politesses simulées qui régnaient dans ce milieu. Elle s'accroupit en serrant les jambes sur le côté pour ne laisser voir de son anatomie que ce qu'elle avait décidé de dévoiler, et sortit des documents de sa valisette en cuir de grande marque.